بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous accepte ce soir pour consacrer 20 minutes pour l'étude du tafsir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna 'alayna jam'ahu wa qur'anahu. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu, thumma inna 'alayna bayana. On lit la traduction des versets à partir du verset 16 de la sourate Al-Qiyama. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement de ton cœur et sa fixation de ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. On avait introduit un peu ces versets la semaine dernière. On avait dit que ces versets concernent la révélation. Ces versets concernent la révélation. Quand on parle de révélation, très souvent, on a l'habitude de citer le verset « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » le verset qui atteste que Allah Rabbul Izzah a pris la garantie de protéger son wahi. Chose qu'Allah n'avait pas pris donc comme garantie, comme engagement pour les autres livres qui avaient été révélés avant le Coran. Mais concernant le Coran, Allah a protéger le Coran à chaque étape. Et là, nous voyons une des étapes de protection du Coran. La première étape, c'est depuis que le Coran a été révélé, on dit la première révélation vers le Lawh Mahfouz, où le Coran était protégé. Cette première révélation qui s'est faite en une fois, et c'était protégé. Et lorsque l'ange Jibril alayhi salam recevait l'ordre d'Allah Rabbul Izza de prendre les versets et de révéler au prophète alayhi salat wa salam, ce trajet aussi, bien sûr, il y avait la protection d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, c'est l'étape où talaqqi, l'étape où le prophète alayhi salat wa salam reçoit la révélation. Parce qu'après cette étape, il y a une autre étape, c'est la propagation du Coran. Et là aussi, il y a la protection d'Allah. Et c'est surtout là-dessus qu'on insiste en temps normal. Qu'Allah protège les versets contre At-Tabdil, At-Tahrif, et ainsi de suite. Contre toute falsification. Ça, c'est des notions qu'on connaît. Là, l'étape qui nous intéresse, c'est quand l'ange Jibril, alayhi salam, s'approche un peu, on comble les espaces. Jazakallah khair. Ça apporte de la rahma, ça. Allah accorde sa clémence, sa miséricorde aux gens qui comblent. Tafassahou fil ma'idaqil alakum tafassahou fil majal ici. Donc là, on est dans l'étape où le prophète alayhi salat wa salam reçoit la révélation de l'ange Jibril alayhi salam. Et ce qu'on avait expliqué un peu la dernière fois, c'est que notre prophète alayhi salat wa salam, au début de la révélation, était inquiet. Et il donnait beaucoup d'importance, bien sûr, à ce que Jibril récitait. Et il répétait, en même temps que Jibril alayhi salam lui lisait les versets, le prophète alayhi salat wa salam répétait les versets sans cesse, par crainte d'oublier les versets. Et là, Allah Rabbul Izzah lui révèle donc les quatre versets qu'on vient de lire pour rassurer au prophète alayhi salat wa salam que cette révélation, elle est protégée par Allah durant son trajet, la propagation jusqu'à ta ummah, mais également dans ta façon de l'entendre, de le mémoriser. Que Allah ne te demande pas un effort ni surhumain, même pas humain, pour mémoriser le Coran. Allah ne demande pas au prophète alayhi salat wa salam le moindre effort humain pour mémoriser le Coran, parce que le Coran entre directement dans son cœur. D'où les versets qu'on a traduits et qu'on va essayer de développer selon le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Et donc Ibn Kathir dit: "Hada ta'limu min Allah azza wa jal li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi kayfiyyati." Ça va être très long. C'est un enseignement d'Allah Rabbul Izzah à l'attention du prophète alayhi salat wa salam quant à la façon d'écouter le wahi, de le recevoir de l'ange Jibril alayhi salat wa salam. Fa'innahu kana yubadiru. Le prophète avait l'habitude donc de répéter en boucle les versets pour le mémoriser. Et donc Allah Rabbul Izzah lui demande quatre choses. Un, an yastami'a la, qu'il écoute seulement. Il a juste à écouter les versets de l'ange Jibril alayhi salam. Et ce que Ibn Kathir, la façon qu'il il commente, c'est très beau. Il dit wa takaffala lahu an yajma'ahu fi sadri. Allah a pris kafala, c'est-à-dire Allah a pris la garantie que à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend les versets, il lui suffisait, et ça, ça fait partie déjà du caractère miraculeux du Coran. Quelle que soit la longueur des versets que l'ange Jibril alayhi salam apportait au prophète alayhi salatu wa salam, ça pouvait être 3 pages, 4 pages, 1 chapitre, Allah seul le sait. Le simple fait qu'il l'entendait, ça entrait et ça pénétrait immédiatement dans son cœur, et il le mémorisait de la première lettre à la dernière lettre. Ça, ça fait déjà partie du miracle du Coran. D'accord ? Imagine tout ce qu'on est en train de dire là. On parle en français là. D'accord ? Est-ce que quelqu'un, après le dars, peut me répéter la même leçon ? Mais quand on dit répéter la même leçon là, c'est pas refaire le bayan. C'est pas réinterpréter, dire bon, on a dit ça, il me semble. Non, après, il me semble que, on dirait que, je me souviens que. Non, non, non. Récite comme si c'était une salah. Chaque mot, chaque lettre, l'intonation, les virgules, les reprises, et de mon côté, les erreurs que je reprends. Mais du coup, pour le Coran, bien sûr, il n'y en a pas. C'est inhumain. C'est impossible. C'est impossible. Et c'était quelque chose qu'Allah a accordé au prophète, alayhi salatu wassalam, chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il avait cette capacité. D'où son angoisse au début, la crainte. Et on appelle ça, en fait, j'ai du mal à trouver le bon adjectif. Ça s'appelle en arabe al-hirsu. Il donnait tellement d'importance et tellement d'attention pour pouvoir tout capter, pour transmettre ça aux mains, qu'Allah l'a rassuré que tu écoutes et ce sera immédiatement imprégné dans ton cœur. Première étape. Naam. Allah a pris l'engagement également de lui faciliter la lecture et la transmission à sa umma. 2. Allah lui a donné la garantie également an yubayyinahu lahu wa yufassirahu wa yuwaddihahu. Allah lui a donné la garantie qu'il lui donnera la compréhension complète et totale des versets. Donc c'est que il le mémorise, il a la facilité pour le lire, le transmettre, et Allah lui donne la compréhension exacte de chaque verset du Coran, chaque mot du Coran. Il comprend Muradullah, il comprend ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu dire à travers cette révélation. Parce que vous savez que dans le Coran, il y a beaucoup de paraboles. Allah donne beaucoup d'exemples. D'accord ? Et le Prophète sallam comprenait exactement ce qu'Allah Azza wa Jal voulait à travers le Wahy. On a le hadith de Saïd ibn Jubair radiallahu anhu, qui lui-même rapporte d'Ibn Abbas radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة. Le hadith est long. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام au début recevait la wahi, c'était comme un taklif, une difficulté pour lui. Et quand il était parmi nous, les sahaba disent que, parce que vous savez que Jibril, lorsqu'il apparaît au prophète, c'était invisible, les personnes ne voyaient, il n'y avait que le prophète qui voyait, et donc des fois il voyait son comportement changer. On avait déjà vu que quand il était sur une monture, et quand on parle d'une monture, c'est un chameau, hein. Vous savez que, quelle est la capacité, hein, d'un chameau, c'est plus qu'un bœuf, autre chose, ça supporte 200, 300 kilos, c'est une puissance extraordinaire. Et quand il recevait le wahi, le chameau ne pouvait plus tenir sur ses pattes. Ça, on avait expliqué il y a longtemps. Et quand le Prophète était avec les Sahaba, il y avait c'était un signe. Parmi les signes, que le Prophète transpirait beaucoup. C'était lourd, c'est quelque chose de très lourd qui descendait sur lui. Et parmi les signes que les Sahaba, par lesquels reconnaissaient que le wahi était révélé à l'instant T, c'est qu'il voit le Prophète répéter quelque chose. Ça, c'était donc au début. Jusqu'à ce qu'Allah Rabbul Izzah lui a rassuré et lui a donné les garanties, tout ce qu'on vient d'expliquer. Ce qui prouve bien que ce verset fait partie des premiers versets. On est vraiment dans la période Makki, au début même de la période Makki. Les savants disent également, à la lumière de ces versets, on déduit que jamais le Prophète sallam n'a oublié un seul verset du Coran. Jamais le prophète alayhi salat wa salam n'a oublié un seul mot. Il lui est arrivé de se tromper dans la salah. Ça s'appelle les erreurs ba'd al-wahi. Après qu'il ait eu la révélation, après qu'il l'ait propagée, en tant qu'être humain, ça lui était arrivé de se tromper. et que les sahaba le reprennent dans leur salat. Mais concernant le talaqqi, le fait de recevoir le wahi, c'était garanti et protégé par Allah Azza wa Jal. Ce qu'on peut déduire également, c'est que la compréhension saine du tafsir, ça doit obligatoirement découler de la compréhension des sahaba. Parce que les sahaba, ils prenaient l'enseignement de qui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu c'est le seul à qui Allah a accordé la compréhension totale. Après un nabi alayhi salat wa sallam, qui était, c'est un grand classique ça, on l'a déjà cité à plusieurs reprises, qui était le sahaba qui avait le plus de compréhension du Coran ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Abu Bakr al-Siddiq, sans le moindre doute. Mais il y a un sahaba, un jeune, qui a reçu un dua du prophète alayhi salat wa salam, le fameux Allahumma faqqihu fi d-din wa allimhu ilma ta'wil. Allah accorde-lui la compréhension de la religion et donne-lui la compréhension des textes du wahi. C'est Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hada. Et de façon plus globale, les mufassirin rahimahumullah expliquent que le Coran, c'est une lumière. La connaissance religieuse, c'est une lumière. Et Allah le dépose dans le cœur de qui il veut. Pour mémoriser le Coran, il n'y a pas besoin d'avoir un QI extrêmement élevé. Il n'a pas, j'essaie de bien recadrer ce que je dis. C'est-à-dire que le Coran, ce n'est pas une science élitiste. Que uniquement les surdoués, uniquement, c'est-à-dire dans une classe, on va regarder que les enfants qui ont 20 sur 20 à l'école, au fait hafez, au combien 14 sur 20, non, perd pas de temps. Abadan, Allah le dépose de le cœur de qui il veut. Et Allah en prend la garantie. Hala. On bascule vers Allama Sa'di rahimahullah. Toujours dans le même verset. Oui. Allama Sa'di, il apporte toujours quelque chose de nouveau, enfin, une petite touche contemporaine. Il dit que c'est également un enseignement concernant le adab de l'étudiant quand il apprend avec un professeur. De ne pas précéder le professeur, de ne pas parler en même temps que lui. Et si jamais, on va dire, là il extrait une règle, hein, c'est pas le tafsir ça, c'est une règle extraite de la compréhension globale de ces versets. C'est dit que donc, quand le professeur fait un, on parle de sciences religieuses, d'accord, quand il enseigne quelque chose, si dans l'assemblée un étudiant ne comprend pas ou il a une objection, hein, ou quelque chose à dire ou des questions à poser, donc il est mieux d'attendre que tout soit terminé. Et ensuite, avec humilité, il va voir le professeur plutôt que d'interrompre et tout. On va continuer, Inch'Allah. Là, on passe à une autre thématique. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Allahumma ja'alna minhum. Allama ibn Kathir rahimahullah explique que dans les versets suivants, Allah Rabbul Izzah explique et donne la raison très claire. Pourquoi est-ce que les Quraysh ne croient pas au Qiyama? Je rappelle que le titre de la sourate est Suratul Qiyam. Pour ces Quraysh qui ne croyaient pas en la vie après la mort, mais également un rappel pour tous ceux qui n'y croient pas suffisamment et qui malheureusement on se laisse aller à certains péchés, ce qui prouve que notre iman sur le Qiyama est faible. Donc la raison pour laquelle les Quraysh ne croyaient pas au Qiyama, c'était ce qu'on avait dit dans le premier dars, bien sûr, question de logique. Pour eux, c'est pas possible. Et ça, c'est le wahid du Coran. Il disait que si le corps est redevenu poussière, est-ce qu'il va redevenir vivant? C'est quelque chose d'impossible, d'accord? Mais c'est également parce que leur cœur était profondément attaché à ce monde, au dunya. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Là, quelqu'un est en train de se poser la question, j'entends la personne penser, ça veut dire que si on aime ce dunya, il y a des choses que j'aime sur cette terre. J'aime bien manger, j'aime ma jolie maison, j'aime avoir une belle voiture. On aime un peu le dunya. Est-ce que ça veut dire que si on aime le dunya, ça prouve qu'on ne croit pas en akhira? Non, ce n'est pas le problème. Notre dîn, notre religion est une religion du juste milieu. Allah ne nous a pas demandé de détester ce dunya. Allah nous a mis pour vivre dedans. C'est pas pour qu'on le déteste, c'est qu'on profite de ce qu'il y a on prend ce qu'Allah nous a donné. Mais attention, l'erreur, c'est la suite du verset. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Le problème, c'était quoi? Wa tadharuna al-akhira. Je traduis. Donc le premier, c'était mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. C'était ça le problème. Les Quraysh ne voulaient pas entendre parler de l'au-delà. Ils ne voulaient rien accomplir comme action pour préparer l'au-delà parce qu'ils se focalisaient sur ce dunya. Et on avait vu dans la sirat, puisque tous les programmes se complètent, qu'est-ce qu'ils aimaient de ce dunya avant tout? L'argent, l'honneur. Et l'honneur, ça passait par quoi pour eux? Le pouvoir, mais également les enfants. Pour eux, l'honneur, al-ma'lu'al banoun. On a des hafiz brillants qui sont là ce soir. Al-ma'lu'al banoun, azinatul hayat ad-dunya, l'argent et les fils. Chez les Quraysh, avoir beaucoup de garçons, beaucoup d'enfants, c'était un grand honneur parce que, et voyez le, on va dire le côté réducteur de leur raisonnement. Pour eux, avoir beaucoup de fils, ça voudrait dire que mon nom sera toujours cité. Génération après génération, on parlera toujours de moi. Mais après, d'une certaine façon, ça sert à quoi qu'on parle de toi? Si vraiment tu es redevenu poussière, que tu n'existes plus, ça t'apportera quoi, d'une certaine façon, qu'on parle de toi? Tu n'existes plus. Déjà, il y avait plein d'incohérences, plein d'incohérences. Donc, le problème des Quraysh, et Ibn Kathir dit que quand on voit ce genre de mise en garde, nous, en tant que croyants, on comprend, voilà l'erreur à ne pas commettre. Ainsi donc, si tu analyses le mode de vie des Quraysh, bien sûr, quelqu'un va dire, oui, mais moi, j'adore pas des pierres. Oui, bien sûr, mais peut-être que tu suis tellement ton nafs, ton ego, tes passions, qui te mènent, qui te fait glisser vers les plaisirs de ce monde exclusivement, et avec ça, tu délaisses complètement le akhirah. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ça le problème. Le problème du Quraysh, il était beaucoup plus grave parce qu'il y avait du shirk avec, d'accord? Et l'abandon du akhirah. Nous, notre problème, à notre niveau, alhamdoulilah, il n'y a pas de shirk, Allah nous protège, il y a le tawhid, il y a les a'mal. Le problème, ce serait que si le cœur est totalement attaché au bien de ce monde et que pour mon dunya, je donne un exemple très simple, pour mon magasin, pour ma carrière, pour mon métier, mon travail, pour ma famille, je suis prêt à délaisser la salah, à délaisser les a'mal complètement, là c'est un problème. Si tu délaisses les obligations et les ordres d'Allah Azza wa Jal pour toi-même, pour ton dunya, là c'est un véritable problème. C'est-à-dire là tu es en train de suivre les pas des Quraysh qui aiment ce dunya wa tadharuna al-akhirah et qui délaissaient le akhirah. Ce que Ibn Kathir dit, c'est, je vais dire qu'il était en forme ce soir, mais Ibn Kathir est toujours magnifique. Innama yahmiluhum ala takdhib bi yawm al-qiyamati wa mukhalafati ma anzal Allah. C'est long, mais la formulation est très belle. Ce qui poussait les Quraysh à refuser le wahi, à ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ne rien vouloir entendre concernant le akhirah, c'était l'attachement, le cœur était profondément attaché au bien de ce monde. Et en parallèle, on a, bien sûr, il y a plein de versets qui vont de ce sens, un verset beaucoup plus accessible qu'on commémorise, quand on a suratul ma'un, Hudhaifa. C'est bien. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom des sourates. Quand on dit le nom d'un sourate, non, mais il commence comment? Non, on doit être capable de connaître le nom des sourates. Donc, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Similitude. As-tu vu, enfin, traduction approximative, celui qui traite de mensonge, là, rétribution. Il s'agit également des gens qui ne croient pas en l'au-delà. Et le fait de ne pas croire en l'au-delà, ça, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a coûté au Quraysh? Ça leur a fait accomplir quel genre de péché? Il y a deux ul-yatim. Aucun sentiment pour l'orphelin. Voilà, yahuddu ala ta'amil miskin. Ni pour le pauvre, ni la veuve, ni l'orphelin. C'est-à-dire, le cœur devient qasi. Le cœur devient vide, sec. Il n'y a plus de sentiment. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien avec Allah. Il n'y a pas de lien avec les gens non plus. Et donc, je ne vais pas aller dans des trucs trop compliqués. Les savants disent que par compréhension inversée, par mafhoum mukhalafa, on comprend que celui qui croit en l'au-delà, qui a une conviction en la vie après la mort, le retour vers Allah, assurément, il va construire un lien solide avec Allah. Et si vraiment ton iman en l'au-delà est bien ancré dans ton cœur, c'est pas juste des croyances, tu as entendu ça m'adresse ça, donc on fait comme si c'est vrai et tout. Non, 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 non. C'est que tu y crois Dieu comme fait à chaque étape, tu as étudié les étapes de l'au-delà et tu vis pour ça, tu attends ce moment où tu seras présenté devant Allah, tu vas recevoir tes a'mal de la part d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Si tu y crois avec conviction, obligatoirement, tu dois avoir un grand cœur. Et quand quelqu'un te tend la main, tu ne peux pas faire comme si tu ne le vois pas ou tu n'as pas compris. Ma yum kinuda. Ça, c'est extrait de Ar-Ra'ayta alladhi. Les faux pieux, enfin, c'est pas moi de juger, mais les pieux, les demi-pieux, on va dire, si vous me permettez, c'est les personnes qui, voilà, on les voit, mashallah, la panoplie, tac, tac, la salah, le premier rang, alhamdulillah, on dit mashallah, a'mal, ils sont là. Mais quand on leur parle d'un projet pour la jamaat, ou pour venir en aide telle famille en difficulté, ou ça, non, non. Moi, c'est namaz, Quran, zikrullah. Avec moi, Allah, avec mon Rab. Avec ton Rab t'a demandé de faire ça, ton Rab t'a demandé de faire ça aussi. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Allah t'a demandé de prier. Mais Allah t'a demandé également, juste après la salah, il y a quoi? Oui. Ben là, j'étais dans le surat al-Baqarah. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqoon. Ça inclut la zakat, bien sûr, mais l'aumône, la bienfaisance de façon générale, et qui donne de ce que nous leur avons attribué, octroyé. Ça, c'est iman. C'est pas uniquement, voilà, très souvent on caricature, hein, enfin, l'homme pieux, voilà, on cherche, vous savez, son gros tâche namaz à la loupe, s'il n'y a pas, comme si tu peux même le scanner avec ton QR code et ainsi de suite, pour voir quel est ton degré de piété. Est-ce que tu as 98% ou est-ce que tu es en low batterie? D'accord? On recherche ça. Mais la taqwa, ce n'est pas uniquement les a'mal, les ibadas de ce genre, le lien avec Allah, c'est également le lien qu'on a avec les gens. Mais il faut le juste équilibre. On est une communauté du juste milieu. Parce qu'après, il y a l'autre extrême aussi. Ça, je sais, je raconte toujours les mêmes histoires. Mais combien de personnes que j'ai connues, Allah musta'an, au moins deux personnes, Allah leur a donné les biens de ce monde, mais à quantité gigantesque, beaucoup de moyens. Un cœur qui pourrait couvrir cette masjid. L'aumône, des actions qu'on a connues même après leur décès. Ils venaient en aide à des familles, et on a su après leur mort parce que, ben, quand ils sont morts, ils ne donnaient plus et les familles venaient réclamer aux héritiers. Oui, mais papa avait l'habitude d'aider à nous. Et là, la famille a découvert comment leur père aidait des familles de parfois ici, Madagascar, ailleurs, et ainsi de suite. Des gens grand cœur. Mais, Pas de salah. Wallahi, pas de salah. Ça fait très mal. Parce que moi, j'estime que j'avais pas 1% de la générosité. Mais le fait qu'il n'y ait pas la salah, c'est un déséquilibre total. Donc, je vais pas m'étaler et je veux rester dans ce Suratul Qiyamah. Notre din, c'est le juste milieu. Et c'est ce juste milieu-là qui fait que cette religion est parfaite. Que nous ne sommes pas des hypocrites. Genre, on est avec Allah, c'est tout, et les gens qui sont en train de crever de faim autour de nous, ça, c'est pas notre problème, on met des œillères et on ne voit pas. Non. Donc, c'est ce juste milieu. Donc, ça découle de Ar-Ra'ayt al-Ladhi. Si tu crois vraiment au Qiyamah, tu vois l'orphelin, tu vois la veuve, tu vois le miskin, la personne en difficulté, tu ne peux pas tourner la tête. Tu vas obligatoirement venir en aide à ces personnes parce que ça découle de ton iman en Allah, de ton amour pour Allah, mais également de ta conviction en l'au-delà. Ce serait bien de temps en temps, quand on fait de bonnes œuvres, on essaie de le faire en... Bon, ça c'est le langage moderne, les psychologues utilisent ça. On prend le terme, mais après, pleine conscience. Les amis utilisent un mot nouveau comme ça, ça fait... bouger les foules, en pleine conscience. Tu fais la bonne action, en pleine conscience. Si tu ne fais pas comme une machine qui répète la même chose, et ainsi de suite, c'est que tu le fais, je donnerai un exemple. Je vais te prendre l'exemple du frère qui a son stand, semaine commerciale, près de Masjid, il vend sa marchandise, et c'est l'heure de la salah, il se dit que je mets quelqu'un pour me remplacer, je vais accomplir mon devoir, mon engagement vers Allah. Ou alors, s'il n'y a personne, période de crise, personne pour remplacer, sous mon nafsi, prends un drap, il couvre, confiance en Allah, tu dis à un voisin, jette un coup d'œil, et tu dis que oui, c'est clair, là on est samedi après-midi, il est 17h, c'est l'heure de pointe et tout, mais j'ai besoin de faire ma salah. Même si je paie 10 minutes, ça ne veut pas dire que 10 minutes calcule. Normalement, il y a un passage, il y a un client tous les 40 secondes qui achète pour 10 euros, donc j'ai perdu combien ? Le haqq de mon Seigneur. C'est-à-dire que, mashallah, il y a plein de gens qui le font, alhamdoulilah, régulièrement. Je veux dire qu'essayez de mettre un peu cette lumière-là, que je suis en train de faire ce sacrifice pour Allah. Parce que le jour de Qiyamah, je veux qu'Allah me regarde avec, comme on va voir aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois, avec un regard rempli de compassion et qu'Allah soit d'une certaine façon fier de moi et qu'Allah m'accepte. Et je veux recevoir ma salat, je veux le recevoir de la part d'Allah et que ce soit une source de lumière pour moi. Et c'est peut-être ça qui va me permettre d'accéder au Jannah. Tout ça, il faut mettre en place cette niya, cette intention. L'orientation, l'intention, c'est bien sûr tu le fais pour Allah, mais c'est pas que ça. C'est que tu le fais vraiment, tu recherches l'agrément d'Allah. Tu le fais pour montrer à Allah ton amour pour lui, ton envie. En fait, on vit pour qu'Allah soit satisfait de nous. Et mourir comme ça, après c'est tout. C'est ça le plus important. D'accord ? Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. On va s'arrêter là, inshallah. Parce que les versets qui viennent après concerne les deux catégories de personnes qui seront ressuscitées le jour de Qiyamah, ceux qui seront heureux de la rencontre avec Allah et avec le visage illuminé. C'est pour ça que j'ai dit le doigt qu'Allah nous accorde ça. Et puis l'autre catégorie, donc ça nécessite un peu de commenter, un peu plus de commenter. Et surtout la première partie, c'est ce que nous allons expliquer vendredi prochain, inshallah, où il y a de très beaux hadiths, hein, qu'on a besoin de prendre du temps pour détailler. Le fameux hadith où le croyant voit Allah Azza wa Jal et ça c'est tout simplement magnifique. Ça se passe quand les gens sont déjà installés dans le Jannah. Tout ça découle de ce verset. Qu'Allah Azza wa Jal accepte cette assemblée, qu'Allah pardonne nos manquements, qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de mettre ses paroles en application dans notre vie, augmente notre iman. Allah nous donne la force de résister au waswasa de shaytan, bien sûr concernant les péchés, ça c'est très clair, mais également dans ta'alluqil quloubi bid dunya, dans le fait que les cœurs soient attachés au dunya. Qu'Allah nous permet de trouver le juste milieu. D'accord ? Allah ne nous a pas envoyé sur la terre non plus pour vivre une vie, l'ascétisme total, genre, tu as une femme, tu as des enfants, mais tu ne leur donnes rien à manger, tu dis que non, il n'y a pas besoin, un morceau de pain c'est suffisant, il n'y a pas besoin, zéro confort de la maison, on vit pour Allah. Non, ce n'est pas ça non plus. Le juste milieu, c'est d'avoir ce qui est nécessaire, mais que ton cœur ne soit pas excessivement attaché à ça, et que surtout, ces biens ne te font pas oublier l'au-delà, ne te font pas oublier ton lien avec Allah Azza wa Jal. C'est cette compréhension saine de la vie du dunya qu'on a besoin d'intégrer pour préparer notre akhirah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.